une bonne heure et quart d'after avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et les drôles de dames sont là également. Oh là, je l'ai foiré celui-là. Les drôles de dames sont là également. Ah ouais, putain, il y avait un bed et tout pour vous annoncer. Tu l'as ou pas? Tu l'as Arthur Robert ou pas? Attends, il arrive parce que tu prends un commerce. Attends, vas-y.
La technique,
vas-y. Toi, tu sais. Attends.
Bon, c'est pas grave, on est pas obligé. Là, je t'en mets l'habillage.
Je tiens à donner une petite dédicace à Dalet, qui est le logiciel avec lequel on bosse et qui nous met dans la mouise ces derniers jours quand même. Voilà, ça c'est fait. Je vais me faire défoncer pour avoir dit ça, mais on se fait défoncer nous.
Alors,
tous les jours
à cause de
ça.
Simonet,
ouais, Simonet okay. Est là. Fredo, t'es là?
Ouais, je suis là. Hola, Chicos.
Ça va, Fredo? Ça va, Fredo?
Ça va très bien, ouais.
Ah, bah, ok, ouais, super. Allez, demain. Oui, parce que la Ligue des Champions. C'est sur RMC Sport, les gars, vous le savez.
Donc, t'es en train de me dire que sur le plateau, on a en même temps Fred Hermel et Pierre Ducrot.
Absolument. On va accueillir quand même David Dorcolari qui est là également. T'es là, David?
Allô, Freunde. Salut, messieurs. Salut à tous.
Alors, vous le savez, pour ceux qui étaient là hier, pour ceux qui ne l'étaient pas, vous allez vous podcaster l'émission d'hier. Vous savez, Fred, tu peux nous rappeler où t'es parti en vacances cet été?
En fait, parce qu'il y avait pas mal de tweets sur le.
Ah non, mais moi, ce que.
7 minutes sur nos vacances, ça a gavé les mecs.
Donc, en gros, on a réussi à reconstituer sur le même plateau le duo de mecs qui ont le plus raté leurs vacances cet été.
Alors, moi, je vais contacter
Pierre. Réexpliquons pour nos auditeurs.
J'espère parler personne. Ça va être la première fois dans l'after que je vais m'énerver. Les mecs en ont marre d'entendre parler de nos vacances, mais c'est pas grave, on va en parler un peu encore.
Oui,
moi, c'est dans le Daniel coup. N'était pas là pour mes vacances, j'ai eu 12 jours de soleil à Punta Cana. C'est pas de ma faute, c'est Daniel Riolo, quand il va à Punta Cana au mois d'août, okay. Il a un temps de merde.
Explication
moi, j'ai eu 12 jours de soleil.
Pierre. Explication de Pierre Ducrot. Fred Hermel, peux-tu nous rappeler où tu as passé tes vacances?
Mais tout le monde le sait.
Alors, avec c'est un échec total. D'énormes critiques de Daniel Riolo, on me dit, moi j'arrive, pénard, je reviens, tu vois, je suis en grand slip de bain et tout, et on me dit, t'as passé où tes vacances? Eh ben, Athènes, combien de temps? Une semaine. Et Daniel Riolo, qui se mêle de la vie de tout le monde, quoi? T'as passé une semaine à Athènes?
Pierre a vécu en Grèce, puisqu'il a joué là-bas.
Alors, une pas pour semaine les mêmes raisons. Moi, c'était la météo. Mais bon, Fred, c'était quoi toi exactement?
Bah, lui, c'était, mais je te l'ai dit,
c'est une semaine à Athènes, c'est vrai que c'est long.
Il est d'accord.
Monsieur,
Pierre, mais c'est hallucinant. Mais Pierre, toi qui as souffert le même martyr que moi, tu viens pas avec moi, t'es pas dans mon groupe.
Non, mais c'est surtout que j'ai vécu.
Non, il te lâche.
On a d'illustres
et tout. J'ai vécu en Grèce et effectivement, Fred, une semaine à Athènes, ça peut être un peu long parce que t'as tellement d'autres choses à voir.
Mais t'es allé à Punta Cana au mois d'août.
Mais j'ai eu du soleil.
Messieurs,
ils finissent par s'engueuler entre eux alors qu'ils
sont là. Messieurs, vous savez, l'after est une émission.
Je me suis éclaté.
L'after est une émission d'analyse. L'after est une émission d'expertise.
Tout à fait.
On parle voyage. Ça fait une semaine que cette histoire dure, on n'en pouvait plus. Jean-François Rial est PDG de Voyageurs du Monde et il est en direct avec nous dans la chaîne. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir les amis.
Bienvenue Jean-François. Alors Jean-François, on a un dilemme dans l'after, ça fait une semaine que ça dure. Il faut que tu nous aides.
Voyage, là. Il nous faut un bilan.
Alors, on va commencer par le cas de Fred Hermel, Jean-François, si tu veux bien. Une semaine à Athènes sans bouger, est-ce que ce sont des vacances foirées?
Non.
Ah.
Moi je trouve que c'est des vacances intelligentes. Parce que c'est évidemment un petit peu à contre-courant, c'est pas classique, c'est peut-être un peu chaud.
C'est totalement fait,
choisi
ça.
Fred en plein été quand même, mais Athènes est une ville extrêmement intéressante, et comme la plupart des gens en été, ils vont plutôt dans les îles, les Cyclades par exemple, ça devient totalement infréquentable l'été, et bien moi je trouve que les vacances de Fred sont loin d'être idiotes, loin s'en faut. Évidemment, il faut qu'il ait un peu de contenu, qu'il soit un peu créatif, qu'il fasse des choses différentes. Mais
c'est
franchement,
voilà, tu viens de me décrire
mieux qu'aller à Punta Cana. Hein. C'est nettement mieux d'aller à Punta Cana une semaine.
Nous y voilà, Jean-François.
Je pense que là, Jean-François,
faut avoir les données aussi, Jean-François. T'as pas toutes les données. Moi, je partais avec ma compagne et mon fils. Je sortais d'une Coupe du Monde d'un mois, 7 jours sur 7 à la télé et un mercato à gérer en tant qu'agent. Et il me fallait, moi, autre chose que d'aller monter à l'acropole ou d'aller visiter.
Jean-François,
avec ta femme, en partant avec ta femme et avec ton fils pour aller te reposer une semaine, au soleil, au bord de la mer. Il y a probablement un peu mieux que Punta Cana en été à choisir.
Alors quoi, vas-y,
Y compris en République dominicaine, Pierre, tu vois. Donc
non, moi j'ai adoré. Alors, je vais te dire pourquoi Jean-François, j'adore la République dominicaine et j'y suis allé plusieurs fois parce que j'adore les Dominicains.
T'imagines que grâce à moi, la prochaine fois, tu vas avoir les conseils de Jean-François pour tes prochaines vacances.
Bah, les conseils, c'est bien aussi. Vous allez après, 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 après,
on Jean-François, vous me permettez que je réponde à Jean-François?
Vas-y, vas-y, Fred.
Parce que moi, je vais expliquer. Parce que moi, j'avais besoin de m'aérer la tête, de voir de belles choses. Parce
que c'est vrai que j'adore le foot.
Non, mais j'adore le foot. Mais pendant un mois par an, j'ai besoin d'oublier le foot pour revenir avec cette énergie qui est la mienne.
Enfin, Athènes, il y a que ça. Il y a cinq quotidiens sportifs.
Attendez, excusez-moi, si vous résumez Athènes, si vous résumez Athènes au foot, moi j'avais besoin de culture, j'avais besoin de musées, ouais, j'avais besoin d'œuvres d'art et j'avais besoin de manger merveilleusement bien. Et Athènes, ah, c'est sublime. C'est sublime.
Moi je trouve que la destination, moi par exemple, il n'y a pas très longtemps, les gens vont prendre pour un dingue, mais je suis allé passer 10 jours de vacances à La Havane. Parce qu'en fait, à La Havane, tu peux faire 3 ou 4 destinations à l'intérieur d'une même ville. Je dis pas qu'Athènes est du même niveau que la Havane, quand même pas, mais c'est une destination extrêmement intéressante. La seule chose qui m'interpelle, Fred, quand même, c'est que je pense que t'as dû quand même avoir un petit peu chaud au mois d'août à Athènes.
Non, mais moi, c'était au mois de juillet, et en plus, j'habitais en Espagne, c'est exactement, moi, j'ai l'habitude de faire des visites. Moi, j'habite en Espagne, j'habite à Madrid, donc,
bon, c'est bon, Fred. Alors, toi, t'as été validé.
Je termine.
Pierre, je termine.
Et moi, je voyage seul. Moi, je suis un vieux garçon, sans femme, sans enfant. J'aime beaucoup voyager seul. Et c'est vrai qu'Athènes est une ville merveilleuse. J'ai parlé avec des gens tous les soirs. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai visité le marché aux poissons, à la viande.
Il y avait le quartier de la Plata est génial.
Fred, toi qui es un créatif, il
y avait des parfums d'Orient quand j'étais dans le quartier du Vieux Marché, il y avait des parfums d'Orient. C'était extraordinaire.
Il a raison, il y a une belle sensibilité au voyage.
Alors attends, Jean-François, on va
Jean-François.
Pas qu'au voyage. On va profiter de ta présence, Jean-François. Attends, parce qu'on n'a pas posé la question à Simonet quand même. Simonet, t'es parti où en vacances toi cet été?
Ah bah lui, il a eu 2 mois de vacances sur la Coupe du Monde, il était tranquille.
J'ai eu des longues vacances.
T'es pas allé en Russie, c'est sûr.
Je suis pas allé. J'étais sur les lacs de Garde.
Ah, c'est très beau.
Ah, oui, c'est joli, avec la petite.
C'est super.
Ça qui est pas longtemps.
Très belle destination.
Donc, David, t'étais où toi alors?
Écosse, Glasgow. Bah,
ah ouais. Oui, Glasgow, 15 jours à Glasgow. Alors là, c'est pas du tout la même histoire, messieurs. Mais par contre,
en termes de... L'Écosse, c'est magnifique.
Voilà,
l'Écosse, c'est superbe. L'Écosse, l'été, c'est vraiment c'est un des plus beaux endroits en termes de paysage au monde, l'Écosse. Donc c'est super sympa. Ouais,
ça me ferait chier en août prochain de partir en Écosse. Jean-François, je vais te poser la question à toi, mais t'étais où en vacances, toi, du coup, cet été, alors?
Ouais, il a tellement tout fait, Jean-François, dans sa vie.
Toi, PDG, voyageur du monde.
Allez, t'es à La Havane cet été? Non, j'étais pas à La Havane cet été. Moi, cet été, j'étais, comme très souvent, je voyage à contre-courant. Moi, je voyage à l'étranger toute l'année. Donc, je suis allé dans mon Cantal parce que j'étais au frais, sans personne et dans des paysages absolument merveilleux. Ça m'a pas empêché quand même d'aller faire un petit tour à Ibiza quand même au nord de l'île qui est absolument sublime.
Bon, je sens que Fred et Jean-François vont passer leur prochaine vacances.
Alors Jean-François, je viens de te suivre sur Twitter.
En tout cas,
faut qu'on
se parle
en privé.
Une semaine dans le Cantal et une semaine à Athènes.
Pas le sud, Fred.
Et attends, avant qu'il parte, Jean-François que je connais très bien, qui est un ami, est un grand fan de foot et grand supporter de l'OL. Donc, comment tu as vécu cet été avec ton cher club dont que tu suis attentivement?
Écoute, ce qui m'ennuie, c'est qu'il redémarre comme chaque année depuis plusieurs saisons avec des défaites complètement incompréhensibles. J'ai du mal à comprendre pourquoi à chaque fois ils font ça alors qu'ils finissent généralement bien leur saison. Je trouve néanmoins que cette année c'est un peu différent parce que je trouve qu'ils jouent mieux en début de saison que l'année dernière par exemple ou il y a 2 ans. Je suis un fan de Genesio qui est tant critiqué par tout le monde parce que je trouve que c'est un homme fin, intelligent et qui la première fois où il a repris l'OL avait mis en place un jeu exceptionnel. Alors bien sûr il a des défauts comme nous tous.
Oula, Jean-François, sur les voyages je te suivais mais là ça va être compliqué. Hein.
Oui, je sais que tu me suis pas Daniel là-dessus. On n'est pas d'accord sur Genesio, mais je trouve que c'est un homme. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un homme au-dessus de la moyenne dans le football, voilà. Et je trouve qu'il est injustement décrié et je suis rarement d'accord avec mon président de Lyon, avec Monsieur Aulas. Même si je respecte beaucoup ce qu'il a construit, mais je trouve que parfois il exagère, en particulier sur Twitter. Mais il y a un point que je partage avec lui, c'est que je trouve que Genesio est un homme éminemment respectable. Et ce qui s'est passé hier soir, J'ai adoré la réaction des joueurs, des anciens joueurs de l'OL qui l'ont défendu.
Oui, et quand, qu'est-ce que tu penses du club qui ne réagit pas et du président qui ne réagit pas pour justement, parce que quand tu dis que t'es d'accord avec lui finalement dans le.
Je ne trouve pas ça bien, Daniel.
Ben ouais, mais quand
tu
dis.
Je ne trouve pas ça bien du tout.
Bah, à mon avis, le
président. Je trouve que le président du club devrait clasher les supporters qui ont fait ça à Genesio, c'est inacceptable.
Ouais, là, on est d'accord, mais moi, je dis aussi, au-delà de ce fait inacceptable, que les situations dans lesquelles il place ses entraîneurs à longueur de temps, et pas que Genesio, mais également ceux d'avant, c'est de sa responsabilité en tant que chef d'entreprise.
T'as souvent fait une analyse que je partage, que je trouve très bonne, mais ça n'empêche que je trouve que Genesio, même si parfois il a pu faire des erreurs tactiques, il n'a pas fait les remplacements assez vite.
Non, mais que toi tu dis que humainement ce soit, évidemment qu'humainement c'est un type formidable, mais après on peut quand même critiquer certains de ses choix.
Bien sûr, mais je trouve qu'il est parfois, si tu veux, je trouve que le ratio critique louange sur la qualité du jeu qu'il produit est pas à sa juste est pas au bon équilibre. Je trouve qu'il est trop décrié. Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup plus de qualité qu'on veut bien le dire. Voilà, en tout cas c'est mon sentiment. Maintenant, moi je suis pas un expert du foot comme vous, hein, donc voilà, j'écoute régulièrement tes analyses et celles de tes confrères brillants. Bon, celle de Fred en particulier sur le Real Madrid, l'Atlético Madrid que j'adore.
Oh là là, donc c'est terminé. Hein.
Mais quand tu veux venir à Madrid,
je te fais la.
Attends, mais j'ai plein de potes là-bas, je suis ami avec le président et tout, mais tu viens, mais t'es reçu comme un roi ici, je te promets. Et je te fais le festival on, mais le festival off aussi, d'accord? Comme Avignon.
D'accord, avec plaisir.
Il peut y avoir des témoignages de personnes de l'after qui sont venues.
On ne dira rien.
En tout cas.
Oui, parce que David, t'y allais, toi.
Oui, voilà.
C'est ce qui explique cela.
Ouais. Je pense que l'OL finira seconde ce championnat. Je suis prêt à en prendre Paris.
Paris relevé, on verra ça à la fin. Alors, on te rappellera, Jean-François.
Jean-François, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas.
Merci, Jeff.
Merci,
Jean-François. Merci à vous, c'était sympa. Ciao.
Merci pour tes conseils.
À bientôt.
Voilà, merci. Ciao. Bah, tu sais quoi, on te rappellera cet hiver, du coup. Pour les vacances des mecs, forcément. Ouais, merci beaucoup, Jean-François Riel, PDG de Voyageurs du Monde.
Oh merde, moi qui pensais que c'était Fred qui allait se faire tartiner et Pierre sauver. Après, c'était l'inverse.
C'est pas grave. L'essentiel est quand même que j'ai kiffé mes vacances.
Oui, bah, c'est ça.
Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, voilà, Daniel le disait, il connaît Jean-François Riel.
Oui.
Mais les autres mecs étaient pas du tout au courant. Voilà, c'est avec Arthur Robert, on a préparé le truc, on s'est dit.
Fred, il était bien content, du coup, là.
Bah ouais. Les gens ont trouvé adorable cette idée sur Twitter. Les gens sont ravis d'avoir des conseils sur les vacances.
Dans quelques instants, les avis tranchés de nos drôles de dames. On va commencer par toi, Monfredo. On sera également avec Simone Rovera, avec David Lorto, avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Et vous, 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu. On vous dit à tout de suite pour la suite de l'after. Accompagné de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et de nos drôles de dames, on est en mode Ligue des Champions. Ligue des Champions du voyage. On y était il y a quelques instants avec Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, donc qui a donné ses conseils voyage pour les temps à venir. Vous allez voyager tout au long de cette saison grâce à RMC Sport. Qui vous proposera la Ligue des Champions
aussi,
la Ligue
si vous voulez, hein.
Comment?
J'en donne aussi, hein, parce que je rappelle que j'ai ce fantasme d'organiser les voyages.
Eh ben, on va voyager en Espagne.
Une reconversion un jour.
Troisième journée de Liga Espagnole ce week-end. Le Real qui a battu les Leganés 4-1 avec un doublé de Benzema. Le Celta qui a perdu face à l'Atlético Madrid. L'Atlético qui affrontera Monaco, tiens, en Ligue des Champions.
L'Atlético qui a perdu face au Celta.
Ouais, ça se revient même, Fred, ça va.
L'Atlético qui a perdu face au Celta.
Qui a perdu.
Non, t'as dit
le Celta a battu l'Atlético 2-0.
Dit le Celta a perdu contre l'Atlético.
Et bah, c'était l'inverse qu'il fallait comprendre.
Ouais, voilà. c'est quand même un détail, en gros, c'est
l'inverse, quoi.
Ouais, excuse-moi. Hein.
Le Barça a battu Huesca 8-2, 2-2 entre Levante et Valence. Le Betis a gagné le derby 1-0 face au FC Séville. On passe à la vie tranchée de Fred Hermel.
Non, mais Zidane, c'est quoi Zidane? C'était un bidon. T'es au courant, Zidane, c'était un bidon. C'est mon avis. Zidane, c'était un bidon. J'ai le droit de l'exprimer.
Ah, mais c'était tout à l'heure, ça, en plus.
Oui.
Les mecs, ils sont réactifs, ils sont attaqués, les gars.
Fred, il va pas comprendre, il était pas là, il a pas entendu, il va croire que c'est vrai, ce que j'ai dit.
Ah, non, mais ça, je sais que t'as beaucoup de défauts, mais au niveau Zidane, t'es bien. T'es dans le rang.
Alors, ton avis tranché, Fredo, il concerne Messi et Ronaldo.
Oui, en fait, c'est pas vraiment un avis tranché, c'est plus un constat que je fais au bout de trois journées, de quatre matchs officiels du Real, et puis c'est pour ça que je pense que j'ai vraiment envie d'avoir l'avis de Pierre par rapport à ça, qui a joué au foot, parce que Messi, quand il joue avec l'Argentine, il est triste. Il est sous pression, il se fait attaquer de partout, il n'est pas à l'aise, il n'est pas chez lui. Dès qu'il revient au Barça, eh ben c'est autre chose. Il est coucouné, il fait ce qu'il veut, il met un doublé. Il aurait pu être leader du championnat, leader du classement des buteurs, dépasser Benzema s'il avait pris le penalty. Ben non, il le laisse à Luis Suarez pour qu'il fasse son petit doublé. Et quand on voit comment il a souffert pendant le mondial, comment il souffre à chaque fois qu'il va en Argentine, là il a pris la décision de faire de nouveau un break avec la sélection de son pays natal. Et puis ben il va mieux quoi. Donc ça c'est un constat que je fais ce week-end, et il a été époustouflant. Il a été époustouflant, mais il est comme ça depuis le début de la saison.
Mais, hein. c'est un constat qu'on peut faire malheureusement pour d'autres joueurs argentins. T'as l'impression que quand ils vont là-bas, c'est presque un calvaire quoi, en ce moment. Quoi.
Bah, oui, c'est vrai.
Historiquement, il y a des joueurs qui ont voulu arrêter d'y aller pour ça. Hein,
ouais, non, mais carrément. Et alors lui, ça se voit encore plus parce que effectivement, vu le type de joueur que c'est, quand il est en forme ou quand il a envie de jouer ou qu'il peut jouer, on sait ce que ça donne. Donc quand il fait un peu la tête et qu'on lui donne pas la possibilité de s'éclater, ça se voit beaucoup.
Ouais. Ouais, et donc ça, moi je suis content de le voir comme ça, mais ça me choque dans le sens du terme de voir le contraste qu'il y a entre Messi dans les tentacules de la sélection argentine et puis Messi dès qu'il revient chez lui, parce qu'on a vraiment l'impression il est là depuis qu'il a 13 ans quoi. Il est quand même beaucoup plus chez lui au Barça qu'à la sélection argentine, c'est terrible. Alors qu'il a vraiment un sentiment patriotique argentin, mais et sur le terrain ça se voit, parce que pendant le mondial on voyait qu'il prenait pas de plaisir. Alors que là, il est heureux, quoi. Il sourit. J'insiste, il a donné le penalty à Suarez. Et puis du côté du Real Madrid, le constat que je fais, c'est qu'ils sont heureux sans Cristiano. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu le sentiment contre les Ganais, c'était un bon match, que les Madrilènes prenaient du plaisir à jouer ensemble. Vraiment. Ils ont je sais pas si le Real va gagner quelque chose cette saison. C'est encore trop tôt pour le dire. Le départ de Zidane et le départ de Cristiano pose quand même de nombreuses questions, en tout cas laisse des questions en suspens, mais pour le moment ce sont des joueurs qui sont heureux d'être ensemble. Il y a beaucoup plus de solidarité entre les joueurs, beaucoup plus de solidarité entre les lignes, et je crois malgré tout, et j'en terminerai là-dessus, que l'erreur historique de Cristiano Ronaldo, mais je dis historique, de ne pas avoir fait le déplacement à Monaco pour le prix de l'UEFA, parce qu'il a appris que son ancien coéquipier et son ami Modric allaient gagner et pas lui, le prix du joueur de l'année, a compté là-dedans. Et je peux vous assurer, et bien sûr vous savez que mes opinions ou mes constats je les base toujours sur des informations internes, je peux vous dire qu'au sein du vestiaire ils ont été d'abord surpris, après choqués et déçus du comportement de Cristiano Ronaldo. Que Ronaldo n'aille pas un prix où Messi va le recevoir, allez, on peut le comprendre, et encore. Mais qu'il n'aille pas un prix où celui qui, il y a deux mois, était encore son collègue, son coéquipier, quelqu'un qui a pas... Parce qu'au Real, il a gagné 4 Ligues des Champions et 4 Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo. C'est aussi en partie grâce à Modric, parce qu'on ne gagne pas tout seul.
Mais est-ce que ce n'est pas la confirmation que Cristiano Ronaldo est respecté avant tout parce que c'est un footballeur absolument dingue, extraordinaire, qui fait gagner ses équipes, que c'est pour ça qu'on l'aime, mais qu'on ne l'aime pas forcément
Il avait pas de problème dans le vestiaire du Real.
Il était très aimé. Pas forcément.
C'était comment les Ramos
La question que je pose, c'est est-ce qu'il est plus aimé pour ce qu'il est en tant que joueur ou par rapport à l'homme.
Ça dépend.
Est-ce que l'homme est autant aimé que les performances qui font gagner l'équipe?
Parce
que son individualisme, ça doit saouler au bout d'un moment.
Mais ça dépend où.
Je pose la question.
Au Portugal, c'est les deux, tu vois. Plus l'homme que le joueur, peut-être encore. Mais
au Real, il était adoré dans le vestiaire parce que sûr. C'est un bon mec.
Moi, je l'ai jamais vu faire preuve d'individualisme.
Non, le jeu aussi.
Quand même.
Mais ce genre d'attitude, c'est égoïste, ce genre d'attitude.
Ah oui, non, mais c'est capricieux.
Je parle au Real. Moi, je pose la question parce que sa réaction, c'est vrai que si je suis au Real, ça me saoule un peu de entendre ça. C'est pour ça.
Ben parce que les gens étaient surpris en disant mais c'est pas possible.
Oui,
c'est
sur la remise de récompense, ça vous parlez.
Ouais.
Oui, mais ça là-dessus, oui, l'attitude n'est pas la bonne.
Il fait une maladie, une fixette sur la récompense individuelle. Il est relou avec ça. Pardon.
Enfin, moi, de l'extérieur comme ça, je sais pas. Fred,
me dis pas qu'on n'est pas face à un forcené de l'individualisme.
Tu veux que je te dise
de son apparence, de tout. Alors que ce soit un mec hors du commun.
On parlait de voyage tout à l'heure. Mais pourquoi il serait adoré dans le vestiaire du Real? C'est parce que
c'est un bon mec.
Parce que c'est aussi un mec qui se fait gagner.
Non,
c'est un bon gars, t'as aussi. Tous les jours,
dans le vestiaire, il est apprécié.
Mais que ce soit un bon gars et tout, mais après, me dis pas que c'est pas un individualisme dingue.
Non, mais quand il joue pour toi, enfin, quand tu joues avec lui.
Ah, bah, t'es content.
Non, mais au-delà de ça, mais le mec, il donnera tout tant que tu joues avec lui. Là, il s'est barré. En gros, c'est ce que veut dire Fred. Il en a plus rien à foutre, quoi.
Ouais, mais justement,
c'est un peu l'upgrade d'Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est la même chose. Moins des trophées, moins d'individualité. Dans le vestiaire, il était adoré.
Exactement.
Dans un chat.
Mais, alors, je trouve que Claude voulait
passer. Même personnalité.
Juste une chose, quand même. Parce que on parlait tout à l'heure de voyage avec Jean-François Rial, mais justement puisqu'on parlait de l'homme et tu parlais de cette fascination qu'il a pour les trophées individuels, sincèrement, si vous allez à Madère un jour, bon, je pourrais trouver la ville géniale, mais c'est fascinant. L'omniprésence qu'a Ronaldo, plus encore d'ailleurs maintenant avec l'aéroport qui porte son nom, avec les statues, son musée, il l'a agrandi. Ouais. Vous allez dans le musée, mais c'est un culte de la personnalité, c'est hallucinant. Le mec, à 27 ans, il a un musée à sa gloire, avec des trophées à lui, tu fais des photos avec lui, des hologrammes.
Permettez-moi de trouver ça un peu dérangeant.
Ce que je veux te dire, Daniel, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est un mec qui, médiatiquement, est omniprésent, mais je pense qu'il y a le côté médiatique. Et il y a le pote de tous les jours, il y a le mec de tous les jours dans le vestiaire. Et je pense
mais
que
le pote de tous les jours a déçu ses anciens potes.
Si on ne l'aimait pas aussi, surtout parce qu'il te faisait gagner, c'est ce qui le rendait bon mec. Mais je suis pas sûr que c'est un mec qui est tellement coupé du monde.
Après, non, mais pas dans le vestiaire. Laissez-moi dire une phrase simplement par rapport à ça. Vraiment, j'ai assez de témoignages pour le
convaincre.
Il était très aimé dans le vestiaire, mais vraiment, parce que dans le vestiaire, il n'est pas le personnage égocentrique qu'on voit sur le terrain.
Ouais, moi, je suis personnage.
Moi, des échos que j'ai eu en équipe nationale, c'est la même. Et pourtant, il a encore plus de passes droits. Vous imaginez bien. Avec sélection du Portugal. Sincèrement, il est tout le temps avec ses coéquipiers, il est tout le temps avec les mecs aussi, et il est hyper apprécié par les gars.
Après,
il a le droit de faire certaines choses que les autres ne peuvent pas, mais les mecs l'admettent pas parce que c'est Cristiano Ronaldo, quoi.
Et de l'extérieur, moi, si tu me demandes, j'écarte toute notion sportive du truc, mais si tu me demandes, moi, je préférerais être coéquipier avec Ronaldo qu'avec Messi, par exemple. Je sens beaucoup moins le personnage de Messi. Voilà,
Tu n'as pas tort.
C'est qu'un ressenti, mais bon, c'est un peu aussi ce qu'on entend.
Est-ce qu'on entend de mecs
qui l'ont. Si, il y a des mecs qui l'ont côtoyé.
Il y en a qui vont dire du mal.
Non, ouais, mais t'as une petite tendance.
La majorité pense comme Pierre.
Exactement.
Il suffit, par exemple, de voir le comportement de Cristiano Ronaldo avec des types du Castilla de l'équipe B. La première fois qu'ils viennent s'entraîner avec Léa, et ben c'est celui qui les accueille le mieux. Voilà, qui va avoir. Ouais, t'as besoin de tout ce soir, etc.
Il a fait une erreur en partant, ou après une erreur, ou alors il.
Fred, ouais, mais le problème, simplement, je termine par rapport à ça. Simplement, j'insiste là-dessus. Il était vraiment très aimé dans le vestiaire, mais d'où la déception et la tristesse qu'il y a aujourd'hui de voir son comportement par rapport à ses anciens coéquipiers.
Ouais, la surprise est d'autant plus grande.
Et puis il a dit, il arrête pas de dire, la Juve, c'est une famille, c'est une famille. Tant à Madrid, il est resté 9 ans quand même, où il faisait ce qu'il voulait.
L'histoire s'est terminée très mal.
Moi, je trouve qu'il y a des choses. Ce qu'il dit à la fin de la finale de la Ligue des Champions. Excusez-moi, c'est votre type formidable, je trouve pas si formidable que ça, pardonnez-moi.
Il y a peut-être un peu d'erreur par rapport à
on dit pas que c'est un type formidable, on dit qu'il est apprécié par les mecs avec qui il joue. Donc voilà. Un mot
j'ai toujours une certaine perplexité face au mec qui abuse autant de la chirurgie esthétique, moi. Mais bon, voilà.
C'est quoi le rapport?
C'était pour conclure.
Comment ça, c'est quoi le rapport?
Bah oui.
Non, mais t'as des gens qui font de la chirurgie esthétique et qui sont super altruistes.
Quand on en abuse
généreux
à ce point, j'aurais été perplexe vis-à-vis de ça, excuse-moi. Pardon.
Bon, ok.
Bah, c'est Daniel qui critique les vacances, il peut pas critiquer la chirurgie esthétique.
À son âge et à ce point-là, je trouve que c'est.
Après, c'est un truc perso.
Voilà. Bah oui, c'est un truc perso et j'ai le droit d'être perplexe par rapport à ça.
Mais par exemple, avoir un peu de tout. Non, mais moi, j'ai des phobies aussi sur la chirurgie esthétique.
De quoi tu dis, pardon?
Moi, je dis que moi aussi, j'ai des phobies comme ça sur les trucs. J'aime pas les gens qui font tel truc.
Bah voilà, mais c'est pour ça que je dis. Excusez-moi de le dire. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi.
Phobie.
Moi, je suis phobique des mecs qui sont perplexes des gens qui font de la chirurgie esthétique. Bah.
Ok.
Bref, moi, un mot sur l'Atlético, Fredo.
Fred, voilà, un mot s'il te plaît. Il perd 2-0 à Vigo face au Celta ce week-end. Alors, pour toi, Simeone, il a fait une connerie ce week-end.
Ah bah il est le premier à le reconnaître parce qu'il a dit je vais tirer des sons de voilà, c'est-à-dire que il y a une équipe il y a 3 champions du monde et c'est vrai qu'aujourd'hui les champions du monde français Griezmann pour marquer les buts, Lemar pour l'animation offensive et Lucas Hernandez en défense sont devenus des pièces incontournables et l'Atlético marchait bien jusqu'ici avec ces 3-là. Il a beaucoup fait tourner ce week-end. Il s'est privé de Lucas Hernandez de Lemar jusqu'à la deuxième mi-temps où ça faisait déjà 2-0 pour le Celta Vigo et il s'est rendu compte qu'il a fait qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui sont d'une incontournable et ça n'a pas marché. Philippe Luis aujourd'hui, on voit bien qu'il n'a plus notamment les moyens de défendre à les physiques à l'extérieur, en plus contre une équipe aussi vigoureuse que Vigo. Donc voilà, pas de champion du monde, ben c'est dangereux pour l'Atlético. C'est un constat aussi qu'on
une
fait.
Une défaite inattendue alors qu'on attend l'Atlético comme pour une fois plus qu'un outsider, un favori. Ah oui. Ça a fait des ordres ce week-end, quoi.
Ça vraiment et en plus il a fait une erreur dingue. Par exemple, c'est le typique entraîneur qui, quand un défenseur prend un jaune, eh ben il le sort rapidement. Là, il a sorti celui qui avait pas de jaune. Il a sorti Jiménez. Il a pas sorti Savic. Et Savic a pris un rouge.
Tiens, puisqu'on l'évoque à l'Atlético de Madrid, on en profite pour vous rappeler que mercredi, il y a la rentrée de Transversal à 20h45 avec une interview de Lucas Hernandez. Un mot également sur le Celta.
Elle est très bien d'ailleurs.
Ouais. Aspas qui remplace Diego Costa en équipe d'Espagne. Et un mot aussi sur le Betis et notamment sur le héros du derby de ce week-end à Séville, Fredo.
Ouais, c'est génial parce que franchement, je lis toujours
37
le plus
ans.
Beau derby d'Espagne, c'est de loin, mais de très très loin.
Ah ouais, vraiment.
Sévillan. Ah ben oui.
Ouais, mais ça m'étonne pas ça.
Mais c'est l'Andalousie, c'est l'exagération, c'est tout, c'est les chants, c'est extraordinaire. Il y a pas un derby où il y a une telle ambiance, quoi. C'est-à-dire le plus beau d'un point de vue footballistique, du plus haut niveau, c'est le derby madrilène. Mais le derby de Séville, c'est extraordinaire. Et ça faisait 12 ans que le Betis n'avait pas gagné un derby en Liga chez lui face à Séville. Et là, il gagne 1-0 avec but de Joaquim, qui est l'idole de ce club. Il a même acheté des actions du club. À 37 ans, il rentre, il marque. Voilà, quoi. Puis en plus, c'est un type qui raconte des blagues tout le temps. Enfin, c'est un mec génial qui se prend pas au sérieux, qui prend son travail au sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Et ça marche. 37 ans, il donne la victoire au Betis, qui est, j'insiste, j'en parle la semaine dernière, peut-être l'équipe qui joue le plus beau football de toute l'Espagne.
Merci beaucoup, Fredo. Dans quelques instants, on ira en Italie avec toi, Simone. On va voir ce qui s'est passé en Serie A et prendre ton avis tranché qui concerne la nationale et la sélection italienne.
Avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, avec nos drôles de dames, David Bertolari, et Simone Rovira et Fred Hermel. Et parce qu'on ne te cache rien à toi, after rien, on parlait jambon pendant la pub.
On parlait des sujets qui, dans l'after, vont faire des digressions intéressantes, comme les voyages. Et j'ai l'un des soirs où j'expliquais à Nico qui n'était pas là, Fred, l'un des soirs où ça avait été drôle, c'était le soir des jambons.
Ah oui,
voilà. Et le soir des jambons. Et Nico n'était pas au courant. Et alors là, tiens-toi bien parce que tu vas tomber de ta chaise. Donc, Simone disait que ça s'était fini sur une sorte de 50-50 entre jambon espagnol et jambon italien.
La finale.
Et Nico est venu placer le jambon portugais.
Bah, le presunto, tu vois. Bon, mais après, c'est très personnel, hein.
Non, mais
jambon, c'est une affaire personnelle.
Non, mais là, on peut
alors,
pas.
Alors que le presunto, c'est un peu le bout de jambon, Fred, que tu mets juste dans la soupe pour donner un peu de goût.
C'est plus ça, quoi.
Non, c'est la chorizo, ça n'a rien à voir. Chorizo, ça, c'est autre chose. C'est la saucisse.
Non, mais Nico, on veut bien tout, mais.
Mais c'est personnel.
Non, mais c'est personnel.
Ça me rappelle mon enfance.
Non, mais si c'est personnel, tu le dis chez toi, tu le dis pas là.
C'est ta manette de prose.
C'est personnel. On veut pas le savoir, alors, si c'est personnel.
Non, mais ça me rappelle mon enfance. On a des informations concrètes aux auditeurs, quand même, là.
Allez, les gars, on file.
Mais attendez, je propose. Alors, simplement par rapport à ça, parce que c'est je pense que c'est, le voyage, c'est important, mais le sujet jambon, c'est majeur. Je pense qu'il faut qu'on fasse un blind test un soir. Un jour, je viens à Paris. J'arrive avec du vrai Ibérico de Bellota, le top du top du jambon espagnol.
La Liga de los Campeones.
Daniel vient avec son jambon italien.
On fait une dégustation
publique, blind test, c'est-à-dire qu'on s'en va la cacher et on met dans la bouche. On fait sentir dans l'after.
T'as quoi comme jambon, toi, Pierre?
C'est pas facile en France.
Ah ouais. Ah, non.
Tu vas venir avec un Bayonne moisi.
Ouais.
Voilà.
On peut faire les saucisses allemandes en blind test.
Ah, mais ça, saucisses, c'est autre chose.
Ouais,
c'est
quoi, ça, oui, c'est autre chose.
Ne mélangeons pas jouer rondon à la Liga.
C'est quoi, je vais essayer d'en trouver un bon, quoi.
Nous avons assez glissé ce soir.
Allez, on passe à la vie tranchée de Simone Rovira.
Conte avec Deschamps, avec Zidane.
On dit pas Ancelotto, nous.
Ça, c'est la meilleure réplique de la dernière.
Et tout à l'heure, messieurs, on était en off entre.
Mais si, tu dis un Ancelotto, deux Ancelotti. C'est logique.
Et tout à l'heure, il nous a appelé Olivier Letang.
Ah oui, c'est vrai.
Il travaillait bien, Olivier Letang.
Bah, finalement, il était bien. Hein.
Le Tanga.
Ah oui, Antoine Griezmann. Tout à l'heure à la rédacta, tu l'as arrêté celui-là aussi. La nationale est grande absente du dernier mondial. Hein, Simone qui effectue sa rentrée avec son nouveau sélectionneur, Roberto Mancini. Deux rendez-vous pour la Ligue des Nations. Alors, la Pologne et le Portugal ensuite. Et alors, pour toi, la Nations League, c'est chiant à dire en plus, c'est le mondial de l'Italie.
Oui,
Et j'ai dit ça parce que c'est une combinaison que pour l'instant personne connaît, même je pense les joueurs ne savent bien pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont gagner, les supporters encore moins. Mais pour l'Italie, après cette absence de la Coupe du Monde, peu importe vraiment, c'est la, à la fin elle te donne un coupe, une médaille, vraiment, ou un bon d'achat pour Décathlon.
Pour des jambons.
Pour des jambons, c'est vrai. Pour l'Italie, c'est fondamental de faire bien et de gagner. Parce que... T'es pas d'accord, Nico, je suis d'accord.
Vous en êtes arrivé là, quand même.
Mais oui, on est au fond du rouleau, comme on peut dire. Il n'y a plus rien.
Suite, si c'est ça.
On est en train de gratter, mais il n'y a plus rien. Et c'est une situation qui est toujours plus compliquée. Aujourd'hui, Roberto Mancini a même expliqué que c'est les pires moments de l'Italie à niveau des joueurs qu'il faut sélectionner. On est à la 21e place au ranking FIFA. Jamais été si nul l'Italie à niveau de ranking. Donc, quoi que soit le but final de cette Nation League...
C'est quoi qui s'est de marrant? Laisse-le parler.
Non, parce qu'on est allé comprendre avec Portugal.
Il faut qu'on ne regarde pas, Simonet.
Parce... Qu'est-ce que tu veux dire, Simonet? Parce que je suis un peu perdu, là.
Pardon. Que l'Italie a besoin
de jambon.
De cette compétition
et de faire bien. Et de gagner. Et d'arriver dans la phase finale, qui après devrait être organisée en Italie.
De cette compétition, ils ont besoin de toute façon de se relancer, de se réaffirmer, de se montrer.
C'est vrai que c'est une nouvelle compétition. Ça intéresse pas encore beaucoup les gens. Pour les supporters, oui, bon, plus ou moins. Pour les joueurs aussi, se demandent qu'est-ce qu'on va faire.
Il y a pas un immense enjeu, il y a ça aussi.
Il y a pas un immense enjeu. Mais pour l'Italie,
c'est qualificatif pour l'Euro, mais.
Pour l'Italie, voilà, c'est plus important parce que pour oublier la Coupe du Monde, pour la situation qu'on est en train de vivre, avec tous les respects, on est tombé sur un groupe qu'on peut gagner. Parce qu'il y a un Portugal qui démarre sans Cristiano et la Pologne n'a pas fait un grand mondial, donc c'est pas une situation extraordinaire. Pour l'Italie, c'est déterminant. Et aujourd'hui, quand Roberto Mancini a expliqué vraiment qu'il faut trouver les joueurs, qu'il n'y a pas de jeunes italiens qui jouent, que c'est la pire des situations qu'il a jamais vécues depuis qu'il regarde les sélections et qu'il doit chercher de sortir quelque chose, ça montre encore plus que pour donner des réponses à tous ces... et trouver une solution
et
à cette situation catastrophique.
Les Français, là, Verratti, Balotelli, il va continuer à s'appuyer sur
eux. Verratti est blessé, donc il a dit après la trêve, il recommencera à jouer, et j'espère que ce sera disponible pour la prochaine fois. Sur Balotelli, il y a des bonnes probabilités qu'il ait fait se jouer, même titulaire. C'est un joueur qu'il adore, qu'il a toujours traité un peu comme son chouchou. Immobile fait un bon début de saison, mais même pas extraordinaire. Belotti non plus, donc on se trouve quand même dans une situation d'équilibre entre les trois numéros 9 et il y a une vraie possibilité pour Balotelli de démarrer en tant que titulaire. Après, on vit une situation tellement paradoxale au niveau des sélections qu'on a même un groupe élargi de 31 joueurs avec des joueurs qui n'ont jamais joué cette saison, avec des joueurs qui n'ont jamais joué en pro, comme Zaniolo, 19 ans, milieu de la Roma, qui n'a jamais joué un seul minute en Serie A, mais seulement avec les catégories inférieures et les sélectionnés. Donc, on voit vraiment que Mancini veut faire un travail global, reconnaître tous les joueurs, voire même les plus jeunes qui l'ont jamais joué. Il l'appelle Pellegrini.
Qui du coup est blessé, il est forfait pour la sélection aussi.
Il est forfait, mais pour dire, pour aller appeler Pellegrini quand tu as déjà Balotelli, Immobile et Belotti, ça veut dire que tu veux chercher quelque chose de nouveau.
Il s'en est plaint d'ailleurs du manque de vivier, on va dire, en Italie. Il a fait une déclaration là-dessus, non?
Il a fait une déclaration. Il a dit que c'est les moments les plus bas à niveau de Italiens qui jouent. Même polémique, en disant il y a plein d'Italiens qui sont bons, qui sont sur les bancs. Il y a d'autres qui jouent, qui sont moins bons et qui sont pas italiens. Donc, le Mancini qui se met un peu contre aussi certains choix des gros clubs italiens. Aujourd'hui, un joueur comme Gagliardini a été sorti de la liste pour la Ligue des Champions de l'Inter. Donc, il va pas jouer la Ligue des Champions. Ils ont préféré garder Vecino aussi pour un discours un peu de fair play financier et des prix qu'il fallait sortir un joueur un peu plus cher. Donc, quand même, on va jouer avec Zappacosta titulaire, qui n'a pas joué un seul minute en Première Ligue. C'est une situation très compliquée, mais Mancini doit tout faire, et là les possibilités, vu les groupes qu'il y a dans cette National League, de faire bien, de faire sortir l'Italie, d'organiser, si l'Italie, les trois nations qui ont demandé d'hospiter la phase finale de la National League sont Pologne, Portugal, Italie. Donc c'est elle qui gagne ces groupes. En théorie, va même hospiter la phase finale à domicile, ça va être encore un plus pour notre football.
Dis-moi, en Italie, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le championnat là finalement que l'équipe nationale là?
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est ce qui, parce que les gens, j'ai l'impression, là, sont à fond là-dedans. L'équipe mais nationale, aussi, elle est un peu.
Mais là aussi,
après, c'est intéressant que Simonet, justement, veuille dire que moi, pour lui, peut-être que le plus important, bah, c'est peut-être aujourd'hui la sélection, compte tenu. Après, il y a une certaine logique, finalement, tu vas pas au mondial.
Il va falloir qu'elle regagne le cœur des gens.
Les gens attendent pour voir.
Voilà.
Et c'est pour ça que j'ai dit que cette National League est déterminante.
Ouais,
et il faut faire des résultats, il faut chercher des sortir du lot de cette série A, on peut dire, de la National League, et faire avoir des résultats derrière, et montrer que l'Italie a encore quelque chose à donner. Parce que l'après-Coupe du Monde, l'effet d'avoir pas participé à la Coupe du Monde et l'après-Coupe du Monde risque d'être encore plus dur à supporter que cette attente depuis novembre jusqu'à la finale.
Ok. Bon, sinon, le championnat.
Plein de choses à dire.
Ouais, je préfère, en fait.
Ça faisait longtemps que t'étais pas con, toi.
Mais non, mais je m'en fous complètement. Vraiment, c'est très bien.
T'étais
mais
bien là une demi-heure.
Mais non, mais c'est
le quota. Non, mais c'est bien.
Non, mais en ce moment, c'est vrai que j'ai un regain sur la Serie A, donc,
Et bah, tiens, on va rappeler.
J'ai envie qu'on y arrive vite.
On va rappeler les principaux résultats.
Donc, c'est très bien, mais voilà.
Milan-Roma 2-1. L'Inter a gagné 3-0 face à Bologne. La Juve s'est imposée 2-1 par. T'inquiète, il m'a fait la même tout à l'heure. Ça va bien se passer. La Lazio a battu
Frosinone.
On commence par la victoire de la Juve à Parme et avec un Ronaldo qui n'a pas marqué toujours.
Voilà. Alors
avec un petit titre de presse qui est quand même assez drôle. Je veux que tu nous en parles du Corriere là.
Oui. Alors déjà,
ouais, j'en fous aussi.
Ouais. Non, ça je m'en fous pas en revanche. Ça m'intéresse. Allez,
je commence avec une petite info qu'on n'a pas donnée avant. Quand
non,
on
le
mercato.
Titre est là, le titre
ouais,
est
c'est
génial.
5,5.
C'est marrant.
On
c'est
a
drôle.
Oublié une chose sur le mercato.
C'est drôle.
Attends,
c'est
par des Juve.
Ah, il a le 5,5 maintenant.
Claudio Marquis a trouvé un club ce soir.
Il est au Zénith.
Il est au Zénith. Et donc on va les trouver dans une Europa League face au Bordeaux.
Ah ouais, pas mal ça.
Tu vois.
Les petits princes qui deviennent Sar.
Ah,
oui, c'est pour ça qu'il voulait en parler. Il est
préparé. Il est tout trois heures. Il fallait le dire.
Fallait le dire. Ok.
Bon. Là, pour qu'il nous regarde.
Non, c'est une vraie info.
Pour qu'il nous regarde à la télé, on voit la une du Corriere dello Sport avec, à la une, les gros titres, Sar 5,5. Pourquoi 5,5? Parce que c'est une note insuffisante en Italie. En Italie, la moyenne, la note suffisante est 6. Donc, il a tellement une envie de parler de Cristiano Ronaldo. Je trouve qu'il a même une envie de parler un peu mal. C'est-à-dire, il entraîne à d'échouer en Serie A. Vous voyez, c'est compliqué. Chez nous, c'est pas simple. Comme dans la Liga.
Je crois qu'en plus, il y a une forme de, comment dire. Alors, les Italiens sont presque en train de s'enorgueillir du fait que Ronaldo.
De pouvoir mal noter ce mec-là, c'est ça?
Donc, ça a provoqué une réaction d'Allegri. Et qui a été obligé de faire une conférence de presse où il a dit mais tout le monde le sait, nos défenseurs sont meilleurs, c'est mieux préparé d'un point de vue tactique et défensif et tout. Donc il y a tout un débat autour de ça.
Il y a tout un débat.
Après, c'est une réalité.
J'ai l'impression que personne s'attendait de voir Ronaldo marquer 40 buts en Serie A cette saison.
Oui, mais personne ne s'attendait non plus à pas voir mettre un but en 4 matchs.
Ça, c'est sûr.
Ouais,
encore.
Non, pas un but en 4 matchs de Cristiano qui signait pour ça.
Oui, 3 journées de Serie A.
Ah oui, 3 matchs. Bah ouais. même trois ça marche aussi.
En Espagne, il était deux matchs sans marquer, c'était la grosse crise. Hein.
Après la saison dernière, Cristiano a marqué 4 buts sur la phase aller de la Liga. Il n'a pas joué certains matchs de Liga.
Il était suspendu pendant 4 matchs.
Oui.
De Liga plus.
Oui, c'est vrai que ça faisait pas.
Au final, il avait marqué à sa 3e présence de la saison. Ici, il n'a pas marqué encore. Mais je trouve qu'il y a en Italie une surexposition de Cristiano, mais c'était normal, on devait s'attendre à ça.
Il est quand même venu pour
mais
ça,
il y a presque une envie.
En avant pour booster la Serie A quand même.
Mais comme je disais, on trouve que parfois il y a presque une partie de la presse qui se régale à les voir en difficulté, qui aime être c'est les journalistes qui met la note un peu plus dure avec les commentaires.
Comme
l'autre
vrai.
Jour, il y avait un commentaire, ce match a été gênant techniquement et tactiquement. Il a pas fait un beau match, mais de là à dire gênant,
c'est
le match de Cristiano, c'est un peu exagéré. Il y a une autre qui écrit, c'est Calimero. Bon, ça peut être un peu plus drôle, mais quand même, c'est un joueur qui a 5 ballons d'or, donc oui, il est bon dans ses débuts de saison.
L'histoire du train qui arrive pas à l'heure, quoi.
Oui, mais.
Ouais, mais il y a quelque chose d'important quand même à signaler par rapport à ça. C'est que, et ça, j'ai vraiment envie de le voir. Cristiano, quand moins il marque, plus s'énerve, moins il marque. C'est-à-dire que, plus il est obsédé par le but, plus il va tenter, plus il va, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui souffre de ne pas marquer. Moi, je l'ai vu souvent ici en Espagne. Et puis alors, je comprends, et je trouve que l'analyse de Daniel est brillante à ce niveau-là. Bien entendu, c'est une manière de mettre en avant la série en disant, bien sûr, chez nous, c'est plus dur qu'en Espagne. Sauf que, si ma mémoire est bonne, le ratio de but de Cristiano Ronaldo contre les clubs italiens en Ligue des Champions, il était à peu près le même que celui en Liga. Hein. C'est une fausse analyse.
Mais on ne peut pas faire d'analyse sur trois matchs. La seule analyse à faire,
c'est qu'il y a l'analyse qui est faite par les médias, par exemple.
Après, il y a des quotidiens comme tout sport qui est très proche de la Juve, qui les surdéfendent, donc qui trouvent toutes les raisons pour lesquelles il est extraordinaire. Comme il y en a certains, c'est-à-dire.
Ce qui est toujours chiant, c'est le manque d'objectivité, quoi. Oui, c'est que chacun cherche à défendre sa boutique.
La seule chose, c'est qu'il a pas marqué. On se pose des questions, ça fait débat.
Et comment joue la Juve? Alors la Juve a une nouvelle carrière d'avançante pour Mandzukic. Parce que Ronaldo a besoin d'un neuf.
Ouais, Mandzukic entraîne aussi de trouver un peu sa position.
Et il est bon.
Parce que
il a pris sa place de neuf. Donc lui, il a été obligé de se réinventer en mec de côté. Mandzukic joue bien partout. Tant mieux. Là maintenant, il se réinvente à nouveau en neuf, ce qui est son poste originel. Puis il continue après la Coupe du Monde.
Oui, mais après il décroche beaucoup. Mandzukic, c'est pas quelqu'un qui.
Mais à la limite, il aurait pu même ne plus être titulaire. Et l'arrivée de Ronaldo lui a offert une place de titulaire parce qu'il n'avait pas de neuf. C'est quand même extraordinaire.
Les gros débats en Italie, c'est plutôt Dybala. Je l'ai déjà dit. Après, Dybala s'est trouvé dans une situation, à mon avis, c'est cauchemardesque. Le mec s'est fait barrer en sélection par Messi, à la Juve par Cristiano. Il n'y a pas pire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux vouloir de pire dans ta vie?
Te faire barrer par deux mecs qui ont chacun 5 ballons d'or, c'est classe.
Bien sûr, après.
Et qui joue à droite alors?
Dans ses débuts de saison, deux fois titulaire sur trois, il y avait Bernardeschi, qui est un peu plus milieu de terrain.
Un jeune que moi j'aime beaucoup.
Qui est un joueur très talentueux. Mais pour vous dire, si Bernardeschi joue, Dybala est sur le banc, Douglas Costa est sur le banc, Cuadrado a joué latéral droit défensif à la place de Cancelo, sinon lui aussi est sur le banc. Donc, il y a une richesse énorme à la Juve. Donc, on peut pas trouver des conclusions sur trois matchs. Allegri aura besoin de, je dis pas toute la phase aller, mais au moins de deux mois pour trouver la meilleure des configurations.
Question pour toi.
Oui.
Est-ce que t'es pas en train d'expliquer que l'arrivée de Cristiano Ronaldo conditionne la tactique de la Juve?
À partir du moment où tu le prends, c'est qu'il doit jouer, tu fais en fonction de lui.
Bien sûr. Il faut mettre, Allegri a même dit que si Cristiano ne marque pas, parce qu'il lui arrive pas des bonnes passes. Donc, pour vous dire comment ils sont en train de les protéger à Turin. Parce qu'il faut les mettre dans les bonnes conditions.
Comme ça et tout,
aujourd'hui, j'ai lu une belle analyse sur la Gazzetta dello Sport pour dire sur les buts, la façon de marquer les buts qu'il y a Cristiano. Les 10 des 11 derniers buts qu'il a mis dans la Liga, c'était dans la surface. Et aujourd'hui, il a frappé plus. Une frappe sur toi qu'il fait en Italie, c'est dehors de la surface. C'est-à-dire, il n'arrive pas à voir les espaces.
Il force un peu son jeu.
Il n'arrive pas à voir les espaces dans la surface frappés. Il y a Mandzukic qui doit lui laisser la place, mais il n'arrive pas. C'est-à-dire, s'il y a un ballon dans la surface, et Ronaldo est en train d'y aller.
Il lui faut un nouveau Scottie Pippen.
Mandzukic, parfois, arrive avant lui. Il lui laisse pas tout le temps les ballons. Ouais. Mais l'idée d'Allegri, c'est de faire en sorte que Mandzukic soit sur Benzema. Pour l'instant, il est pas sur Benzema. Benzema, s'il y avait un ballon entre lui et Cristiano, il faisait en sorte de prendre les défenseurs et les faire partir
super
loin.
Huilé, quoi. C'était bien rodé.
Il nous reste très peu de temps, Simone. Juste un mot quand même sur le Napoli, qui a pris une grosse fessée à la
Genève. Très inattendu.
Oui, alors, la fessée sur les 3-0 et sur la manière dont Napoli s'est fait mêler.
De joueurs importants, c'est bizarre. Pourquoi il a fait ça, on sait?
Parce que ça ne faisait jamais du turnover. Ancelotti veut faire participer toute l'équipe. Si tu fais pas ça en début de saison, c'est un peu plus compliqué pour avoir un peu des réponses de certains joueurs. Quand il y a la Ligue des Champions, ça devient plus compliqué. Les calendriers du Napoli, quand même, est cauchemardesque sur les 7 premières journées. C'est-à-dire, les premières 3, il avait Lazio à l'extérieur, Milan à domicile, Sampdoria à l'extérieur. Après, il a Fiorentina, Torino à l'extérieur, une match simple face à Parme, et après, il y a la Juve.
Ouais, c'est vrai, c'est pas facile.
C'est pas simple. Et la Sampdoria, j'invite tous les gens qui nous suivent à aller chercher sur les réseaux sociaux le but qu'a mis Quagliarella.
Quagliarella, il joue encore, il a mis un but de dingue.
Extraordinaire, avec une talonnade acrobatique.
On va rajouter Liverpool, d'ailleurs.
Dans le calendrier.
Oui. Après la Juve, il y a Liverpool. Donc, un peu. Imaginez, quand même, comment c'est compliqué pour un Quagliarella.
Elle est magnifique.
Mais, je vois pas beaucoup des équipes aller faire un gros résultat à Genoa face à la Sampdoria cette saison. C'est vrai qu'il a commencé un peu plus tôt les turnovers, Ancelotti, mais au moins il l'a fait. Sarri le faisait jamais.
Attends, important, parce qu'hier, ça a été le débat pendant qu'on était dans le match. Hier, Pierre Ducrot disait que le but de Quagliarella, c'était une magère.
Oh non, non.
Je te l'avais dit ou pas?
Oh mais non.
Je t'avais dit que ça l'énerverait.
Non,
on a vu te rectifier, c'est une oreille.
Ah.
C'est pour te faire
merci,
non, Simone. En fait, hier, il a réagi, il a dit, tiens, dis ça à Daniel Riolo, tu vas voir comment il va réagir.
Non, si, j'aime
bien. Bah, voilà, moi, je t'aime.
C'est vraiment pas une nature.
On file en Allemagne, messieurs, et on passe à la vie tranchée de David Lortola.
Je rappelle que Lortola porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et le Bayern qui s'est imposé 3-0 à Stuttgart, le club, vous le savez, de Benjamin Pavard. Mon Lortou, toi, ton avis tranché, il concerne eh bien Goretzka, qui pour toi est maintenant le nouveau Balak, c'est ça, le monsieur plus du Bayern.
Ouais, un joueur essentiel. Alors il faut contextualiser rapidement sur le Bayern et cette victoire du week-end 3-0 qui permet au club bavarois de prendre la tête du classement après deux journées. On en est qu'à deux journées hein, en Bundesliga.
C'est étonnant, je rappelle le Bayern que en tête, franchement, s'y attendait pas trop.
Bah, je rappelle que l'an dernier, il avait fallu une bonne dizaine de journées quand même, et que Dortmund avait dominé le premier quart de la saison. Bon, c'est pas une question de jouer du faux suspense, il n'y en a pas en Allemagne, on le sait, et tout le monde est d'accord là-dessus. Simplement, l'entraîneur Kovac, et ça se dit aussi à l'intérieur du vestiaire, a réussi à proposer d'entrer dans la saison une espèce de rotation, je dirais presque violente. En mettant personne à l'abri. Alors sans doute que c'est une façon pour lui de s'affirmer aussi vis-à-vis d'un groupe de stars comme c'est le cas au Bayern. Et pour l'instant, semble-t-il, d'après les échos qu'on peut avoir de l'intérieur du groupe, ça plaît aux joueurs. Alors, je voulais insister ce soir sur Goretzka parce que c'est un joueur qui vient d'arriver, qui a eu sa première titularisation ce week-end et qui a été d'emblée l'homme du match en étant buteur et en étant passeur. Goretzka, c'est un joueur qui apporte une nouvelle dynamique dans le jeu du Bayern. On a critiqué régulièrement, et vous l'avez vu aussi en Ligue des Champions les dernières saisons, cette espèce de belle machine qui ronronnait avec un Thiago Alcantara brillant techniquement, mais un jeu du Bayern qui n'était pas forcément capable d'accélérer, de changer de rythme, de changer aussi de façon de jouer. Ça a été un peu le souci peut-être pour franchir les derniers niveaux.
Alternance avec Rami Martinez aussi, non, un peu.
Ouais, voilà, non mais exactement. Et on a l'impression qu'avec Goretzka qui arrive là avec toute sa, je vais y venir dans un instant, avec toute son presque son arrogance et ce jeune joueur sûr de lui, on a l'impression que ça apporte une nouvelle dynamique. Et je pense que Kovac, qui veut faire tourner un maximum, va y regarder à deux fois avant de sortir ce jeune de son 11. Et d'ailleurs, le sélectionneur aussi de la Mannschaft contre qui l'équipe de France joue jeudi était dans les tribunes, bien sûr, de ce match à Stuttgart, pas très très loin de chez lui, pour voir aussi Goretzka. En plus, ce Leon Goretzka, premier match donc, un but, une passe décisive, l'homme du week-end. C'était la pierre angulaire du jeu du Bayern. Il est décisif, il se projette dans la surface. C'est pour ça que dans nos discussions de l'après-midi, je vous ai évoqué le. Alors ça fait slogan publicitaire, mais j'ai envie déjà de penser à Balak. Alors attention, hein, Balak 98 sélections, ouais. Joueur incontournable, etc. On n'en est pas encore là, mais dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être, d'en imposer sur le terrain, dans sa façon d'être décisif aussi dans le tournant du match, il m'a fait penser à ce grand ancien. James Rodriguez et Tolisso.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais non, mais c'est ça que je voulais savoir.
James Rodriguez et Tolisso étaient sur le banc. C'est peut-être aussi pour faire un peu de place à Goretzka, qui a joué avec aplomb, qui a saisi sa chance. Et puis, pour l'équipe nationale, où il va avoir évidemment un avenir, je rappelle simplement que le sélectionneur Löw n'a pas appelé pour le prochain match, pour les deux prochains matchs de la National Mannschaft, ni Khedira, Sami Khedira, ni Sébastien Rudi qui est parti vers Schalke. C'est aussi peut-être un signe qu'on veut vite, vite faire de la place,
David,
à ce jeune.
Alors donc, on reprend sur le Bayern deux, trois questions. Donc, Boateng, dont on voulait plus trop, finalement, il continue de faire charnière avec Hummels, et ça bouge pas. Donc l'équipe en défense ne bouge pas. Donc Kimmich.
Alors c'est pas tout à fait aussi simple, Daniel. C'est pas tout à fait aussi simple. C'est pas qu'on voulait plus trop de lui. Alors la version côté Bayern, qui sera qu'une partie de la
en
vérité.
En tout cas, c'est la charnière. Boateng, Hummels, ça reste la charnière de l'équipe d'Allemagne et du Bayern.
T'as trois défenseurs centraux de haut niveau avec le jeune Süle maintenant qui doit avoir 22 ans, que Kovac veut aussi mettre en avant, mais il va évidemment devoir composer avec les trois et tu peux pas mettre un Boateng, t'imagines pas de mettre un Boateng sur le banc pendant toute la saison.
Alors après au milieu. Attends, c'était quoi la version David dont tu parlais?
La version sur Boateng. Boateng rapidement sur son possible départ au PSG, c'est que le Bayern avait a demandé 48-50 millions d'euros, n'a pas baissé ce chiffre-là. Et Uli Hoeneß a expliqué que il a entre les lignes, on pouvait lire dans les déclarations d'Uli Hoeneß qu'il aurait bien accepté de le laisser partir à condition que le PSG mette le prix. Sous-entendu,
Il mettrait pas ce prix-là. Donc après, au milieu, donc tu l'as dit, il y a quand même de très bons joueurs qui visiblement ne font plus, en tout cas, ne sont plus des titulaires en puissance. Donc Rames et Tolisso aussi, mine de rien.
Bah pour Tolisso, ça va être un peu l'embouteillage peut-être dans un premier temps.
J'ai l'impression.
Effectivement.
Et alors après, le truc, c'est que on repart invariablement avec les côtés Robben Ribéry. Et là, moi, j'avoue que je suis surpris de ça, parce que pour être champion d'Allemagne, ok peut-être, mais en Ligue des Champions, on l'a vu même l'année dernière, c'est plus suffisant quoi.
Ils sont souvent blessés, c'est souvent le problème, ils sont vieux les gars, faut que tu les gères, surtout à leur poste.
C'est des gars qui étaient au sommet il y a 5 ans, donc
quand tu les mets pas, qui te poignarde dans le dos, c'est ce qui est arrivé à Ancelotti.
Absolument d'accord, la capacité de nuisance est énorme. Mais je me demande même, David, et la question est, est-ce que Thomas Müller, qu'on a vu à la peine à la Coupe du Monde, est encore lui aussi aussi performant qu'il a pu l'être, parce que lui aussi fait partie des cadres intouchables.
Oui, alors sur Robben Ribéry, Fred a raison dans la mesure où Robben, qui est sorti avant la fin du match ce week-end, a commencé à grogner dans la place.
Évidemment.
Pour Thomas Müller, il vient de nous faire 2 buts, 2 passes décisives en 2 matchs.
D'accord, donc la présence est justifiée.
C'était en 2012-2013. Voilà, c'est, Müller retrouve un niveau assez impressionnant.
Okay.
Et Lewandowski, 6 buts en 4 matchs officiels. Tiens, d'ailleurs, ça va vous faire rire. Il vient d'égaliser le nombre de buts en Bundesliga d'Ulf Kirsten, 182 buts. Sixième meilleur buteur de l'histoire. Le
c'est
cinquième
super,
étant Pizarro.
Mais ça nous fait pas rire.
Avec 10 buts de plus. Non, mais Ulf Kirsten, ça rappelle l'Allemagne de l'Est.
Non, ce qu'il dit, ça va vous faire rire.
C'est une vanne.
En fait, c'est pas vraiment allemand. Mais c'est important de le savoir.
Tiens, David.
Non, mais juste termine là-dessus, Nico.
Les deux axios,
Lewandowski et Müller. D'ailleurs, peut-être que Müller va jouer comme deuxième attaquant. On va suivre ça de près cette saison parce qu'il est efficace à ce poste-là aussi. On a les deux axios et donc qui fonctionnent bien en ce moment. Et Robben et Ribéry, normalement, un avenir est préparé derrière eux. Kingsley Coman est blessé, c'est vrai. Mais Serge Gnabry est là. Alors, il est soumis aussi aux blessures de temps en temps, ce jeune.
Coman est toujours blessé. Et Gnabry,
Et on a un jeune dont on nous dit beaucoup de bien qui va arriver du Canada, un jeune de 18 ans, 17 ou 18 ans, je sais plus, Alphonso Davies, qui va arriver en janvier.
Ok, David, mais le problème, c'est que les deux sont là et que tant qu'ils sont là, il y a une pression énorme et que s'ils sont sur le banc, t'as l'impression que l'entraîneur a un poids sur la tête.
C'est vrai.
David, le Dortmund a fait match nul 0-0 à Hanovre. Un mot alors sur Alcacer, tu voulais en parler un petit peu, alors qui est visiblement le Xème choix de Dortmund, hein.
Oui, alors juste peut-être Fred, avant que tu éclaires sur Alcacer, Dortmund, refait rapidement le contexte de sa venue. Le choix numéro 1 Dortmund, c'était Mario Mandzukic. Mandzukic n'était pas forcément contre de revenir en Allemagne parce qu'il y a passé des années de sa jeunesse notamment. La Juve n'a pas voulu le lâcher, je pense que Simone sera d'accord là-dessus. Ouais. Deuxième choix, c'était un joueur argentin, Martinez, qui est parti à l'Inter Milan. Le Dortmund a trop tardé pour le faire venir. Troisième choix, c'était Marc Uth, qui est parti à Schalke de Hoffenheim. Quatrième choix, c'était Giroud, mais c'est la femme de Giroud, semble-t-il, qui a pas voulu qu'il aille se perdre dans la roue. Morata était le cinquième choix. Finalement Chelsea n'a pas voulu le lâcher. Le sixième choix, c'était Anthony Modeste, et finalement avec Modeste, ça s'est pas fait. On se retrouve avec le septième choix, qui n'est pas forcément un mauvais joueur, attention, hein. Paco Alcacer, qui finalement vient pour maintenant être l'avant-centre titulaire de Dortmund, parce que ni Marco Reus ni Maximilian Philipp ne veulent jouer à ce poste-là.
Très bien.
Alors un petit mot par rapport à Paco Alcacer.
Bon, fait avec les 8e, 9e choix, il a rien eu à dire à ça.
Non, Paco Alcacer, on a oublié que c'était un super joueur. Qu'il était titulaire en sélection espagnole, qu'il était l'attaquant de Valence. Il est allé au Barça, il s'est perdu, ça a été terrible pour lui, il n'a jamais joué. Et c'est quelqu'un qu'il faut faire renaître à la bonne cause du football.
Voilà.
Peut-être dans un club peut-être un peu plus familial, où il sera à l'aise.
Il est hispanophone, ça va peut-être être un peu compliqué pour l'adaptation, mais on va suivre ça de près, je vous en
parlerai régulièrement. Imagine un mec qui était à l'aise à Valence, il se retrouve dans la roue.
Ouais, t'as un Anglais, un Américain, un Allemand, un Suédois, un Danois, un Espagnol devant.
Pierre, il y a certains Espagnols qui ont du mal, c'est pas un défaut, c'est comme ça. Quand ils jouent dans des clubs genre Valence, Séville, le Bétis, ce sont des clubs un peu familles avec des régions.
Ils ont du mal à voyager.
Voilà.
Ouais. Moi, c'est sous
moi, exactement. Ah ouais. Je peux comprendre, parce que qui a fait une carrière, qui est une star en Espagne, moins ici, on le connaît moins, même s'il est international. C'est un gars très dur à sortir. sortir de chez lui.
Ah, tranquille.
Bah,
l'Italie, ça allait. À la Fiorentina, ça allait quand même.
Elle était pas mal à la Fiorentina. Elle était pas extraordinaire.
Le pire, moi,
je pense de la peine.
Non, mais j'imaginais les faire aller dans le nord de l'Europe et tout. Culturellement.
Non, je disais ça parce que
culturellement, il y a des mecs qui aiment pas David Villa et t'es un mec qui a du mal à voyager aussi, par exemple. C'est un joueur extraordinaire.
Faut qu'on évoque la première ligue, on sera avec Salim
Bangali. Je peux simplement dire 30 secondes, même pas 20 secondes. C'est un exemple extraordinaire. Le pire de tout, c'était José Antonio Reyes. Vous vous souvenez de Reyes?
Ah oui, ah bah oui,
quel
oui,
joueur. Quel joueur, ouais. Mais Arsenal, pour lui, c'était l'horreur. Quand il était à Madrid, c'était déjà trop au nord. Parce qu'il a joué au Real. Ah oui. Il a joué à l'Atlético. Et le mec, ils se sont rendus compte.
Il est andalou.
Qu'il prenait le TGV l'après-midi, qu'il allait dormir à Séville, et qu'il revenait le matin.
Oh, ah, c'est fabuleux, ça.
Ça, c'est énorme.
Ah oui, c'est ça. Parce que pour lui, Madrid, c'était déjà trop au nord par rapport à Séville.
Ouais. Belle petite anecdote. Ouais. Merci, mon Fredo. Ouais. On ira en Angleterre avec Salim Bangali dans quelques instants pour revenir sur la quatrième journée de Première Ligue. Également, on revient tout de suite pour la suite et la fin de cet after. Toujours accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, nos drôles de dames sont là, Fred Hermel, David Lortolari, Simone Rovera et Salim Bangali nous rejoint pour évoquer la Première Ligue. Attends, si j'arrive. Salut Salim.
Bonsoir Nicolas, good evening guys.
Salut.
Ciao.
Salut.
Alors bon Salim, on va commencer par Manchester City qui sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais que vous suivrez sur RMC Sport en Ligue des Champions le 19 septembre prochain. City qui s'est imposé 2-1 face à Newcastle. Alors c'est vrai que les supporters de l'OL, ils doivent se demander comment faire pour battre cette équipe de City qui, rappelons-le, restait sur un match nul face à Wolverhampton et qui a eu du mal quand même face aux Magpies. Hein.
Oui, d'ailleurs il y a une image qui a quand même marqué lors de cette rencontre, c'est Pep Guardiola très agacé sur le banc touche. Rarement on l'a vu comme ça. Déjà la saison dernière, évidemment, il y avait une certaine aisance à voir City dominer ses équipes, donc il était assez tranquille. Mais là, très agacé, car oui, par séquence, Newcastle a vraiment embêté cette équipe. Déjà, sur offensivement parlant, Newcastle a donc marqué ce but sur des contres, puisque oui, City peut subir des contres, et ça peut être un indice très clair pour cette équipe de Lyon. On le sait, City aime bien posséder la balle, City aime bien aller de l'avant avec notamment ses latéraux. Conséquence, il y a de l'espace derrière et comme par hasard, le but de Newcastle était venu d'un côté avec un centre dans la surface de réparation et c'est l'arrière droit qui est venu à la surface d'André Yedlin pour marquer ce but de Newcastle. Donc déjà on a vu cette séquence et puis de l'autre côté on a aussi vu une belle organisation défensive de la part de Newcastle. Et comme par hasard, dès que on défend bien, alors vous allez me dire c'est facile de bien défendre et de le dire comme ça, mais c'est un fait. Quand vous êtes bien organisé, quand vous êtes coordonné, et bien tout d'un coup City, ça s'agace, et tout d'un coup City, ça marche plus, ça marchote, on a envie de dire. Pourtant Sterling avait marqué le but très rapidement. Hein.
Mais après, de toute façon, c'est souvent là.
Et c'est un indice pour Lyon, quoi.
Mais c'est souvent l'histoire, Salim, c'est qu'avec tu dis c'est bien défendre et tout, c'est qu'à force, quand t'as une équipe qui est rodée comme City maintenant. Bah tu sais de toute façon que tu vas devoir défendre. Donc tu t'y prépares et tu défends. Et globalement, plus le temps passe, plus t'arrives à mieux défendre parce que tu regardes ceux qui l'ont bien fait. Mais sur City, je me demande, on est juste dans le début de saison. Pierre, toi qui regardes aussi beaucoup les matchs de Première Ligue, j'ai l'impression, pour l'instant, ils sont pas aussi bien rodés que l'année dernière. J'ai l'impression qu'ils cherchent encore, même si c'est quelqu'un qui est adepte du turnover, il y avait quand même un 11 qui se dégageait un peu. Là, j'ai l'impression qu'on sait pas encore.
De Bruyne est blessé.
Oui, alors De Bruyne n'est pas voilà,
il est pas encore là.
Donc c'est un joueur important. C'est un joueur important dans la construction du jeu. Après, par phase, tu retrouves le Manchester City parfois par séquence dans le jeu. Mm-hmm. Moi, j'avais été les voir contre Arsenal. Honnêtement, il y a des phases où ils ont fait tourner les Gunners. Ouais. C'était vraiment Manchester City. Et puis il y a certaines phases dont Salim a parlé aussi là et qu'on a pu voir contre Newcastle, où effectivement ça. Ça ronronne un petit peu, ça manque de rythme, ça manque de vitesse, etc. Et où là, tu peux te faire, quand tu joues comme City et que tu mets pas la vitesse qu'il faut dans ton jeu, tu peux te faire coincer parce que t'as un Mendy qui est même pas très haut, il est très haut et très rentré dans le milieu, il est même plus dans son couloir. Très très souvent, il joue à l'intérieur du milieu.
Tu peux
gauche.
Exploiter ça, quoi.
Tu peux exploiter des espaces qui sont laissés derrière, ouais, effectivement.
C'est un peu le problème des équipes de Guardiola parce que c'est un entraîneur tellement dogmatique avec une idée de jeu tellement claire qu'à un moment, les autres finissent par s'habituer et à comprendre le système de jeu. Alors quand ça roule bien, c'est imbattable, mais dès qu'il y a un petit défaut, eh ben les autres peuvent en profiter, quoi. Et moi, je pense que le gros défaut de City, je regarde un petit peu les matchs, moi, je pense que l'absence de Bruyne est essentielle.
Ouais,
c'est
quelqu'un
aussi, qui démonte et qui est imprévisible. mais un joueur qui est moins là quand même, qui est un homme clé à la base de cette équipe de City, c'est Fernandinho au milieu de terrain. Lorsqu'il est en pleine forme, et la saison dernière on l'a vu, c'est l'homme clé de ce milieu de terrain défensif. Et quand il est un ton en dessous, et ben tout d'un coup, on voit une équipe de City qui récupère moins de ballons.
Bah, tu as raison, ça
doit demander à d'autres joueurs de les récupérer, et bah, ça devient un peu plus délicat.
Les fameux milieux de terrain dont on parlait tout à l'heure.
On parlait au début de l'émission. Non, tu as raison. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. On peut enchaîner avec...
On va faire Liverpool. Juste vous dire quand même que demain, on fera une plus large page sur l'Angleterre.
Ah d'accord.
Mais Liverpool, on va le faire quand même parce que Liverpool va affronter le Paris Saint-Germain aussi. Ce sera le 18 septembre également. Alors Liverpool qui menait 2-0 face à Leicester, qui s'est fait peur et qui surtout a encaissé son premier but de la saison aussi.
Ben oui, malheureusement, Alisson est passé par là. Vous savez, un gardien brésilien, parfois ça fait quelques et ça a quelques facéties. Et on l'a vu lors de cette rencontre déjà, juste avant face à Brighton, on avait déjà vu Alisson tenter un coup du sombrero magnifique sur un vis-à-vis, tenter de dribbler un attaquant de Brighton. Ça n'avait pas eu une grosse réussite, même si au final il n'y avait pas eu de danger. Mais là, il a tenté de le faire à 2-0. Il a préféré non pas relancer très loin, mais tenter de dribbler Kelechi Iheanacho. Ça n'a pas marché. Rachid Ghezal a pu marquer sur l'action en question. Donc c'est le défaut d'Alisson. Vous savez, il a un jeu au pied phénoménal. On le sait tous. On l'a vu en série à l'année dernière.
Des fois, il en fait trop quand même. Des fois, il en fait trop.
Et voilà. Et ce week-end, il l'a prouvé en tentant de dribbler. Et ça n'a pas fonctionné. C'est le petit défaut d'ailleurs après le match. Claude Puel disait que il avait demandé à ses attaquants pressez le gardien. Allez-y, pressez-le. On ne sait jamais. Parce que soit il va relancer, il va être forcé de relancer. Soit il va faire ce genre de bêtises comme on l'a vu.
T'imagines ça a permis à Ghezal de marquer un but, c'est énorme.
Simone,
des boulettes comme
des boulettes buts comme ça par Liverpool cette saison. Hein.
Des boulettes comme ça non, mais l'assurance avec les pieds, des dribbles, oui.
Non mais là, ce qu'il fait avec Liverpool là, il le faisait jamais à la Roma. Là, on a l'impression cette année, il est parti dans un défi.
Il le faisait pas à la Roma ça.
Ah pas à ce point-là.
Non, pas ces risques.
Ah non, pas à ce point-là. Non. Là, c'est. Après, je trouve que là, il exagère vraiment.
Pour compléter quand même, parce que Alisson, il est attendu dans un domaine et il le fait très bien. De toute façon, sur toutes les rencontres et même face à Leicester, sur ses arrêts, sur sa ligne. Il est impressionnant quand même. Ouais. Il a été notamment sur une tentative de démarrer. Enfin, voilà, il a fait cette bêtise, ok, mais à côté de ça, dans ce qu'il doit faire, il le fait particulièrement bien. Encore une fois, j'insiste, Liverpool, vous avez une colonne vertébrale d'Alisson, Van Dijk, Naby Keita qui était sur le banc, rendez-vous compte, qui n'était même pas titulaire, et puis devant Mané, Salah. Enfin, aujourd'hui, s'il y a bien une équipe qui doit avoir peur, c'est bien le PSG face à Liverpool et pas l'inverse.
Ah, puis tu peux en rajouter quelques autres à mon sac.
Oui,
il
y a
vraiment des tauliers, on va dire.
Ouais, enfin, Henderson aussi.
Qui
vient de prolonger aujourd'hui.
Salim a raison, mais sur Alisson Becker qui est un très bon gardien, mais j'ai envie de dire, raison de plus pour pas faire ce genre de conneries, quoi.
Oui, il y a eu une certaine pression cet été sur lui. Les meilleurs gardiens du monde, il y a toute cette histoire.
L'un des plus chers.
Ouais, le plus cher. Ouais,
mais ça t'oblige à faire le compte de ta surface.
Bien sûr. Non, mais regarde un peu. Les lumières sur Pogba, les premières années. Qu'est-ce qu'on parlait de
mais les gardiens, Simone, c'est pas pour ça qu'ils doivent se permettre de faire des petits ponts à des attaquants, enfant. Kepa, tu le vois faire ça, toi? Il a coûté 80 millions.
Mais non.
Kepa, le gardien de Chelsea.
Arrizabalaga.
Mais c'est un.
Repeat after me.
Arrizabalaga. Lo tengo.
Pas mal.
Aussi, lo tengo. Arrizabalaga.
Bon, donc il faudra finir l'Angleterre demain.
On sera demain avec
Chelsea, Arsenal, avec la Casette.
Et Manchester United.
Quel but, la Casette.
Et Manchester United.
Magnifique.
Très, très bon.
Il va peut-être donner un petit mal de tête à Emery. Il va falloir qu'il joue la Casette maintenant.
Ah oui.
Je me rends compte que j'ai pas parlé du meilleur buteur du Real Madrid.
Oh non. De toute façon, on a fini. C'est quoi?
Non, mais non, on a fait trop court en Europe, là. Ouais, et même en Espagne, il y a plein de trucs qu'on
a
pas
une heure et demie.
Ah ouais? Attends.
On a fait une demi-heure de plus que les Indiens.
Ils sont bons avec eux. T'en passes vite avec eux.
Mais non, on a fait.
Est-ce que tu regrettes les 10 petites minutes du voyage?
Absolument pas.
Voilà, Daniel. Pense à ça, Daniel.
Parce que demain, nous aurons du temps.
Oui.
Et ils pourront revenir.
Voilà. Merci beaucoup à nos grands dames. Merci Salim.
Merci
David. Merci Fred. Merci Pierre. Merci Daniel. Merci Arthur Robert. Merci à toutes les équipes techniques. Et puis, nous, on se dit à demain. Bisous. Bonne nuit. Ciao.